BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous, bienvenue dans les experts. Nouvel horaire tous les jours désormais à partir de 9h30 pour une heure de débat et de controverses, toujours avec mes invités, toujours sur l'actualité du jour. La France est-elle entrée en stagflation après une croissance zéro au premier trimestre et le bond de l'inflation qui est passé de 1 à 2% au mois d'avril? La plupart des économistes disent oui. Christine Lagarde, elle, dit non. No inflation, c'est ce qu'a dit la présidente de la Banque Centrale Européenne jeudi dernier. Je la cite. Dans les années 70, l'inflation progressait de manière continue. Le chômage était très élevé. Le cadre monétaire et budgétaire n'avait rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors, entrons-nous ou pas en stagflation? Faut-il s'en inquiéter? Ce sera le premier thème des débats aujourd'hui avec mes experts. Et puis, on va revenir sur le décret sur l'indemnité carburant pour les travailleurs modestes grands rouleurs. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce décret a été publié ce week-end. On peut faire attention à l'argent public sans oublier la France qui bosse, a déclaré Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui marche sur un fil sur les aides distribuées au fil de l'eau et au compte-gouttes. Alors, le gouvernement gère-t-il bien cette crise? Doit-il en faire plus? Faut-il taxer Total Énergie? C'est évidemment le débat qui repart. On en discutera là aussi avec mes invités du jour. Et puis, bonne nouvelle, aujourd'hui, lundi 4 mai, c'est le jour de libération des actifs. Oui, vous avez fini de cotiser pour payer la retraite de vos parents et vos grands-parents. Ça ne veut pas dire que vous avez fini de payer pour tous les services publics non plus. Le jour de libération fiscale n'est pas encore arrivé, mais on avance. Ce sera le troisième thème des débats aujourd'hui. Et puis, a-t-on trop payé pour les apprentis après bientôt 10 ans de politique en faveur de l'insertion des jeunes dans le travail? Le résultat est là. Les chiffres ont été multipliés par 3, mais la facture, elle aussi. On verra le bilan à tirer à un an de la présidentielle avec mes invités du jour. Voilà pour le programme. Il est 9h passé de 33 minutes. C'est parti pour une heure de débat. Une heure de controverse. C'est les experts sur BFM Business. Allez, c'est parti.
Les experts, débat et controverse sur BFM Business.
Et pour parler de ce programme chargé, on a du pain sur la planche ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Valentine Hénouz. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi. Bienvenue dans cette première participation, je crois,
bah oui,
sur
plaisir.
Le plateau des experts. À vos côtés, Dany Lang. Bonjour Dany.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne, Paris-Nord et membre des économistes atterrés. Vous n'en êtes pas tout à fait à votre première participation.
Non.
Vous non plus, cher Guillaume Poitrinal. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Ravi de vous accueillir tous les trois. On est parti pour une heure, beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on va commencer d'abord par les infos macro qu'on a eues, la conjoncture qu'on a eue par l'INSEE en fin de semaine dernière. La France s'installe-t-elle en stagflation? Croissance zéro au premier trimestre, 2% d'inflation en avril. Et pourtant, nous a dit Christine Lagarde, c'était jeudi dernier, la stagflation décrit dans les années 70 n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Allez Valentine, j'ai envie de commencer avec vous. Est-ce qu'on entre dans un risque de stagflation aujourd'hui?
Alors, il y a ce risque, mais stagflation des années 70. Années 70, on avait quand même une inflation à 10-15%. Donc aujourd'hui,
un autre monde.
C'est un autre monde. Et surtout, une inflation où il y avait des effets, ce qui va être important de regarder aujourd'hui, on a une hausse du prix du pétrole, mais c'est la diffusion de la hausse du prix du pétrole sur le reste de l'économie. Et aujourd'hui, ma conviction, c'est que cette diffusion de la hausse du prix du pétrole sur le reste de l'économie va rester assez modérée. Donc ce risque inflation, je le trouve pour moi assez modeste aujourd'hui.
Oui, on est à 2%, on n'est pas...
On est à 2%, on est loin de ces 15. Par contre, il y a véritablement un risque de croissance pour moi, beaucoup plus qu'un risque d'inflation. Et plus cette guerre va durer, plus ça peut nous coûter en points de croissance. Parce que cette guerre, elle pèse sur la croissance, pour moi, via trois canaux. Le premier, c'est la hausse du prix de l'énergie.
Oui.
Parce que cette hausse, ça veut dire des coûts de production en hausse pour les entreprises, moins de pouvoir d'achat pour les ménages, un niveau d'incertitude qui est élevé. Hein, et les acteurs économiques, les ménages, les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Et je dirais le point le plus important, ça va être quelle va être la fonction de réaction des banques centrales. Parce que le risque...
Bon, on a vu, jeudi, bonne nouvelle, bon, le 30 avril...
Pour l'instant...
Pas de hausse des taux.
Hein. Mais le risque, c'est qu'on ait un durcissement des conditions de financement si les banques centrales montent leurs taux et une réévaluation du risque sur les marchés financiers. Parce que pour l'instant, les marchés financiers restent assez complaisants face à ce risque croissance.
Ah bah, donc complètement. Moi, on va de record en record.
Exactement. C'est même, donc plus c'est qu'un un... risque inflation pour l'instant, il y a vraiment un risque croissance pour moi.
Tani Lang, d'accord avec ça. C'est vrai qu'on dit qu'une hausse de 10%, de 10 dollars pardon, du baril, c'est 0,1 point de croissance en moins d'habitude.
Oui.
Valentine Nous nous dit risque de récession, voilà ce qu'il faut surveiller, pas tant l'inflation.
Oui, d'accord, Tani Lang. Je suis assez d'accord avec vous. La stagflation, ce n'est pas du tout une situation comme celle dans laquelle on est. Et puis les pétroliers ont encore quelques semaines de marge avant vraiment d'augmenter les prix. Donc on n'est pas du tout dans la situation des années 70. Par contre, à terme, effectivement, ma crainte, c'est que les banques centrales finissent par remonter les taux pour faire face à cette situation. Et quand les banques centrales remontent les taux, ça aggrave la situation économique. Donc, effectivement, vous avez raison de souligner que le risque, c'est sur la croissance économique et ouais. sur l'emploi. On a plus un risque de stagnation qu'un risque de stagflation. Cela dit, si les bêtises de M. Trump venaient à durer dans le temps, il n'est pas non plus à exclure que l'inflation soit plus élevée que les 2% actuels.
Oui.
Donc, le problème, c'est l'incertitude. On en parlait déjà au mois de janvier. Si ça dure, il se pourrait que l'inflation augmente, mais pas, certainement pas au niveau des années 70. Ceci dit, l'inflation en soi, un peu d'inflation comme on a maintenant, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les dettes publiques et privées.
Oui, on sait que ça a permis de nettoyer un peu les dettes, un peu d'inflation.
Ce qui compte, c'est le poids de la dette. Or, la dette privée est particulièrement élevée. C'est la première cause de crise économique. Un tout petit peu d'inflation, là, celui qu'on a... Si on pouvait rester au niveau qu'on a maintenant, ce serait bien.
On est toujours proche de la cible de la BCE. Voilà. On recevait sur BFM TV ce matin le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur les risques de récession. Il est plutôt optimiste, on l'écoute.
Moi, je ne dirais pas que rien ne va plus. Dans tous les scénarios que nous publions, on garderait quand même une croissance positive cette année. Alors, on est entre 0,9 dans le cas le plus favorable ou 0,3 dans le cas le plus défavorable, on verra. Et la France échapperait à la récession. Donc ça, c'est des moins mauvaises nouvelles. Maintenant, on va pas se raconter l'histoire. Ce choc qui arrive de l'extérieur, c'est évidemment un élément négatif, pas seulement pour l'économie française, pour l'économie européenne et l'économie mondiale.
Guillaume Poitrinal, vous êtes chef d'entreprise, vous, et notamment dans le bâtiment, vous faites de la construction en bois. L'INSEE a bien indiqué fin de semaine dernière que le bâtiment était l'un des secteurs qui pâtissait le plus du ralentissement aujourd'hui. C'est ce que vous constatez
aussi. Oui, en fait, il y a deux forces sur le prix des bâtiments, si c'est ça que vous posez, les coûts de construction, qui sont quand même assez importants dans ces facteurs d'inflation.
Avec des hausses qui passent dès le mois de mai.
Il y a deux éléments. Il y a quelques matériaux dont les prix augmentent, mais il y a surtout une pression à la baisse des prix globaux parce qu'il y a beaucoup moins de demandes. Il y a beaucoup moins de demandes pour les entreprises, donc les carnets de commandes ont tendance à baisser, et ça c'est lié en effet à la fois à la hausse des taux qu'on a connue, et puis aux craintes de réhausse des taux. Donc je suis tout à fait d'accord avec nos économistes sur le terrain, on appelle quand même plutôt à une baisse des taux directeurs des banques centrales, d'abord parce que honnêtement, 2,6%, c'est pas 10% d'inflation quand même. On reste dans des normes qui restent tout à fait acceptables. Et puis juste parce qu'il va falloir soutenir quand même cette activité économique. Et ces taux, ils comptent beaucoup puisque les taux, c'est quand même la matrice essentielle de l'investissement, notamment l'investissement immobilier est très sensible évidemment à la question des taux. Donc voilà, on est un peu dans cette espèce de système d'entre-deux, en fait, ouais. Où il y a des facteurs inflationnistes, il y a des facteurs désinflationnistes, il y a deux poussées, mais à la fin, il faudrait qu'il y ait de la croissance pour remettre tout le monde d'accord, et cette croissance, elle viendra d'une baisse des taux.
Oui, et puis d'une guerre qui devrait s'arrêter aussi le plus tôt possible, évidemment. Il y a eu des signaux positifs, comme je voulais qu'on revienne sur cette note de l'INSEE, Valentine Hénouze. Ce qui a plombé la croissance au premier trimestre, je rappelle, croissance zéro, alors qu'on attendait entre 0,2 et 0,3 points de croissance, c'est le bâtiment qui se porte pas bien, C'est le commerce extérieur qui a beaucoup pesé aussi. Pourquoi ? À cause de problèmes de livraison d'Airbus. On le sait, bon, mais les carnets de commandes sont pleins chez Airbus. Et donc, ce qu'on a perdu au premier trimestre, ça va repartir au deuxième trimestre. Et la consommation des ménages, qui n'était pas en forme aussi, on sait que le moral des ménages dépend de l'inflation. On a des points positifs quand même, non ? On a la Coupe du Monde qui va arriver, qui va relancer un peu la conso. Ça marche toujours comme ça. On a le secteur de la défense qui va être porteur pour l'avenir. L'investissement, notre l'INSEE, se porte plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre pour la suite ?
Alors, je pense qu'un des points positifs de ce conflit, hein, si on veut rester dans le ton positif, c'est que ça va quand même en mettre en avant les besoins d'investissement dans la défense et dans tout ce qui est indépendance énergétique. Et ça, pour moi, ça va être la conséquence positive de ce conflit. C'est qu'on réalise quand même en Europe qu'il faut renforcer notre souveraineté et qu'on a véritablement plus de besoins de financement dans la défense et oui. Et dans tout ce qui est indépendance énergétique. Mais on est quand même dans un environnement aujourd'hui où je trouve qu'il quand même faut souligner le point moins positif, c'est que la dynamique de l'emploi est nettement moins bonne que ce qu'on avait il y a quelques années. Oui. C'est pour ça que je serais quand même très très prudente sur l'impact des hausses de taux sur nos économies si la BCE montait ses taux. Et c'est quand même un scénario qui se dessine pour le mois de juin, parce qu'on est dans un contexte qui est totalement différent de celui de 2022. Si on regarde en 2022, on crée entre 3 et 4 millions d'emplois, on avait des croissances sur les salaires qui étaient à 5%. On est aujourd'hui plus du tout dans ce contexte. Que ce soit en France, en Allemagne, le secteur industriel détruit des emplois. Donc, on n'est plus du tout dans cette même dynamique de création d'emplois, ni même de hausse de salaire. Si on regarde tous les indicateurs avancés sur les salaires pour les 12 prochains mois, c'est un très net ralentissement.
Oui. 2026 s'annonce comme la pire année depuis 2013.
Voilà. Et la bonne nouvelle, quand même, il faut dire, enfin, le miracle, c'est l'énergie nucléaire française. Enfin, il faut quand même savoir. On a quand même un parapluie
la bouée de sauvetage
considérable qui met quand même à mal tous les autres modèles, notamment les modèles qui veulent reposer sur les énergies intermittentes et non pilotables, hein, donc l'éolien et tout le reste. Franchement, le nucléaire, aujourd'hui, il prouve son utilité. Moi, je vois même, sur les matériaux de construction, pour revenir, autrefois, le ciment, c'était le prix du pétrole. Autrefois, le verre, les matériaux verriers, l'acier, c'était le prix du pétrole. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus détaché. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a énormément
d'usines
qui se sont mis à l'électrique, tout simplement, tout bêtement, et qui étaient autrefois au pétrole ou au charbon. Donc, il faut quand même, on devrait avoir une avenue Messmer ou une place Pierre Messmer dans tous les villages de France. Cet homme formidable qui a équipé la France entre 74 et 84, qui a inventé ce plan, hein, sous Pompidou, qui fait que on a fait 20 des 30 réacteurs qui tournent aujourd'hui ont été décidés à cette époque-là, et que le dernier réacteur, hélas,
comme vous le savez,
le dernier réacteur, enfin heureusement on a réouvert l'année dernière, mais on a eu un trou pendant 20 ans entre 2003 et 2023.
Je voudrais qu'on écoute Daniel Ball, le président de la Fédération bancaire française, qui nous parlait lui aussi de l'état de l'économie française ce matin. Il trouve que ça va pas si mal non plus.
Pour ce qui concerne les entreprises, aujourd'hui, leur trésorerie n'a pas encore trop souffert. Évidemment, sauf certains secteurs d'activité directement impactés par les prix de l'énergie et parfois par les prix des produits chimiques. S'agissant des ménages, pareil, c'est les gros rouleurs, effectivement, qui peuvent avoir quelques difficultés. Vous parlez des prêts, ce n'est pas parce que les taux remontent aujourd'hui que les prêts que nos clients ont aujourd'hui en portefeuille augmente, puisque en France, notamment, le financement du prêt immobilier est à taux fixe, et ça, c'est un élément de protection.
Voilà, un élément de protection, Dany Lang.
Bon, écoutez, moi, je suis assez partagé, parce que quand j'entends que le bâtiment ne va pas bien, je ne suis pas rassuré. Alors, ça vous fera plaisir, mais ce n'est pas pour vous faire plaisir. C'est quand même un des secteurs, on dit souvent, quand le bâtiment c'est pas si faux que ça, en fait, quand on voit ça. C'est un des secteurs où vous avez un fort effet multiplicateur. Vous mettez un euro, vous en sortez beaucoup plus. Donc, je suis pas très rassuré de savoir que ça vacille de ce côté-là. Et mon problème, c'est que sur les baisses de taux, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, il faudrait encore les baisser pour faire baisser les taux. Mais les baisses de taux, ça marche pas forcément. Les hausses de taux, par contre, ça a toujours un effet négatif. Donc, il les fallait pour la stabilité financière en 2022, après le choc de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, surtout pas. Et ma crainte, c'est ça, c'est qu'à force, la BCE, qui est aujourd'hui Madame Lagarde et Monsieur De Gallo, ils ont un rôle, c'est d'influencer les anticipations. Quand ils disent ça va aller bien. Ça ne veut pas dire qu'ils le font forcément. Ça veut dire que leur rôle, c'est de limiter les hausses de prix qui seront liées aux anticipations. C'est leur rôle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas crédibles, mais ça veut dire que c'est leur rôle. Donc, je ne suis pas aussi optimiste que ce qu'on vient d'entendre, même si je ne suis pas non plus d'un pessimiste crasse. Mais ouais. Cela dit, une croissance de 0,3 à 0,9, ne nous gargarisons pas. Il y a un problème de demande dans ce pays. C'est un autre débat, mais c'est bas.
Consommation qui s'effondre au premier trimestre.
Et puis après, on a toujours cette crise qui n'a rien à voir avec la conjoncture, qui est une crise fondamentale et profonde de l'économie immobilière et notamment de la promotion immobilière, qui est liée à trois phénomènes en fait. Nous sommes surtaxés, on surtaxe la production immobilière, comme beaucoup d'industries d'ailleurs, on n'échappe pas, etc. Parce que les industries qui sont principalement locales sont elles-mêmes surtaxées avec les impôts de production qu'on connaît, parce qu'on prend 20%, l'État prend 20% du prix à la fin finale, y compris le foncier. Donc, vous allez payer 20% sur la marge du promoteur, c'est logique. Vous allez payer 20% sur le béton, le bois, le verre, etc. C'est logique. Et vous allez aussi payer 20% sur le foncier que le promoteur a acheté 2000 euros et qui va vous revendre 2000 euros. Donc, et là, l'État prend 20% de TVA. Donc, on a un système qui est absolument délirant là-dessus. Il y a beaucoup de pays qui ne procèdent pas comme ça, d'ailleurs. Et puis, le troisième élément, c'est qu'en fait, le deuxième, c'est qu'on a cette complexité administrative qui est assez délirante, assez particulière à ce pays dans lequel nous avons accumulé les décideurs de l'acte de construire. Donc, quand vous voulez construire quelque chose dans ce pays, vous n'avez pas affaire à monsieur le maire, comme dans beaucoup de pays, vous avez affaire à monsieur le maire, à monsieur le président de la communauté de communes, s'il faut bouger le PLU, parce qu'il y a besoin de bouger le PLU ou faire ceci. Vous avez très vite affaire au département pour les routes départementales, parce qu'il y a toujours un bout départemental. Vous avez affaire à la région pour les transports, et vous avez affaire à l'État, qui, de toute façon, surveille les communes, surveille tout. Et pour peu que vous soyez dans une opération d'intérêt national, c'est le préfet qui vous signe le permis de construire, et non plus monsieur le maire, mais le monsieur le maire l'a quand même instruit. Donc à la fin, si vous voulez, on mobilise énormément de pouvoirs qui ne sont pas tous d'accord. Et donc la complexité administrative, elle est colossale. Et la deuxième manche, comme vous savez, se joue devant les tribunaux, puisqu'on a un droit tellement, tellement considérable qu'il est incertain. Et donc on est totalement dans le troisième élément, c'est qu'on a supprimé le goût de construire au maire.
Alors, il y a un bâtisseur, mère battue, hein.
Mais surtout, en fait, avec les dernières réformes sur les impôts, le maire a très, très peu intérêt financier à construire dans sa commune.
Il n'y a que des embêtements.
Donc, et à la fin, on finit dans un système qui est en crise. Alors là, presque structurelle. Et cette crise, elle a des impacts sociaux. Et c'est là où je regarde Dani. Parce que la question de cette crise, c'est comment est-ce qu'on loge les enfants? C'est ça la question.
Oui.
Et comment est-ce qu'on loge les pompiers, les infirmières? Est-ce que tout le monde doit aller à la fin dans du logement social? C'est voilà. Et donc moi j'appelle une grande réforme. Et cette réforme, elle doit passer aussi par le retour de l'investisseur privé. Il faut savoir que on va parler de Total tout à l'heure. Si vous voulez avoir vraiment faire des affaires et pas être taxé sur votre épargne, vous investissez dans Total.
Oui.
Si vous investissez dans un studio ou une chambre d'étudiants pour fournir une chambre d'étudiants en zone tendue, etc., vous allez être martyr fiscal. Martyr, je vais vous dire pourquoi, Dani. Parce que vous pouvez arriver avec à cumuler les impôts, y compris l'impôt sur la fortune immobilière, vous pouvez arriver à un rendement négatif. C'est-à-dire totalement dévoré par l'impôt.
Enfin, je pleurerai pas sur l'IFI au vu du barème, mais par contre, je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de choses que vous avez évoquées, notamment la grande complexité administrative. Rajouter toujours des couches de complexité administrative, c'est une tendance générale. Il y a depuis 30 ou 40 ans, et à chaque fois qu'on nous promet des lois de simplification, on le voit à l'université, on a une couche administrative supplémentaire et on passe toutes nos ressources là-dedans. Donc là-dessus, je serais d'accord avec vous. Martyr fiscal, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai.
Non, mais quand on a 2-3% de rendement sur l'immobilier, effectivement,
Et là, il y a des choses à faire. Donc, il faudrait regarder précisément, décomposer, etc. Mais effectivement, moi, je suis pas un fan de la baisse de la fiscalité, loin de là. Je trouve qu'il y a la suppression de la taxe d'habitation, c'était une connerie, la TVA indifférenciée, c'est une connerie, qu'il faut regarder de plus près. Si ça tenait qu'à moi, les taxes, la TVA sur la construction, le bâtiment serait beaucoup plus bas. Si c'est ça que vous vouliez m'entendre dire,
oui,
c'est clair.
Mais c'était mon objectif.
Pour autant,
objectif
martyr
atteint.
Fiscal, n'exagérons pas. Mais c'est
non,
vrai
mais c'est
qu'aujourd'hui,
des conséquences. Voilà,
il vaut mieux être actionnaire de Total que d'investir dans la pierre, et ça ne va pas.
Valentine Hénouze.
Ouais, ce qui est important quand même sur toute la partie immobilier aujourd'hui, c'est les niveaux des taux longs en France, le niveau du 10 ans. Et je trouve que les prix de l'immobilier n'ont pas forcément ajusté par rapport à cette hausse qu'on a eue sur les taux longs. Et on est quand même aujourd'hui rentré dans un changement de régime où on voit que les taux longs sont de moins en moins sensibles aux baisses des taux courts. Donc même si la BCE aujourd'hui baissait les taux, c'est absolument pas la dynamique.
Non, c'est pas le
risque.
C'est pas ce qui est prévu.
Plutôt sur une hausse. Mais on va se projeter à 2 ans. Même si on est sur une BCE qui baisse ses taux, il est peu probable qu'on ait des taux longs qui baissent de tout autant. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui pèse sur les taux longs aujourd'hui, c'est les besoins de financement des États. Et on voit que les besoins de financement des États, aujourd'hui, sont devenus structurels et vont rester élevés sur les années à venir. Ils sont structurels parce qu'ils répondent à des besoins de financement sur la vieillesse, sur la défense, sur tout ce qu'on disait avant, les dépenses pour les infrastructures, la transition énergétique, la digitalisation. Donc, on va voir des besoins de financement des États aujourd'hui qui ne dépendent plus. Avant, on avait des déficits élevés quand on était en récession, quand on avait du chômage, etc. Maintenant, on garde des déficits élevés, quelle que soit la dynamique conjoncturelle de l'économie. Y compris quand il fait beau, pour des raisons.
Oui, enfin, il fait beau à 0,9% en même temps. Le problème de fond est celui-là, c'est les taux de croissance de long terme qu'on a sont extrêmement faibles parce qu'on joue que sur l'offre et on ne joue plus sur la demande. Donc, c'est la conséquence de cela.
On a un problème de stimulation de la demande.
Depuis 2017, +B+C,
ces besoins de financement, ce n'est pas simplement une histoire française, c'est une histoire qui est globale.
Oui.
Et on voit aujourd'hui que les investisseurs, moi je suis sur les marchés de taux, restent extrêmement sensibles quand il y a des annonces de politique budgétaire.
Oui.
On voit immédiatement les taux longs monter. Donc il y a vraiment pour moi une baisse dans l'efficacité des politiques budgétaires. On annonce une politique budgétaire pour soutenir l'économie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des pressions sur les taux longs. Et donc ces pressions sur les taux longs, par contre, à l'opposé, sont négatives.
Rappelons quand même qu'ils restent les taux sur la dette publique à 10 ans. Reste à des niveaux très raisonnables par rapport à la période de 2009-2010.
On n'est plus sur les mêmes niveaux de croissance.
On a quand même multiplié par 3 depuis 2020 et la crise Covid. Et c'est peut-être cette pression des marchés qui font que Sébastien Lecornu n'annonce qu'au compte-gouttes les aides publiques au carburant, notamment. Ce week-end, le décret sur l'indemnité carburant pour les, je cite, travailleurs modestes, grands rouleurs, a été publié au Journal officiel. On peut faire attention à l'argent public sans oublier la France qui bosse, a dit Sébastien Lecornu. La réalité des faits, c'est que pour l'instant, on ne distribue que des quelques centaines de millions d'euros à telle ou telle profession contre 7,5 milliards, je le rappelle, en 2023. Est-ce que le gouvernement gère bien Guillaume Poitrinal le robinet aux aides publiques, on verra.
Il avait envie de me passer la parole parce qu'il m'a vu souffler.
Non mais vas-y.
Très franchement, on recommence comme la dernière fois, pas au même niveau. Cette fois, c'est 50 balles. Allez, on va voir si on renouvelle. Ça va coûter 160 milliards. Si on renouvelle, ça va être 160 milliards par...
millions,
par mois, désolé. Tu as totalement raison, 160 millions par mois. Pour un effet, c'est les 5 premiers déciles, la moitié de la population française. C'est effectivement sur eux que ça pèse le plus lourd. Mais on va filer 50 balles à un petit rouleur, à un gros rouleur. On finance les énergies fossiles alors qu'il faudrait plus le faire, mais bon, cela dit, à court terme, on n'a pas tellement de choix pour ces gens. Mais
oui.
Très franchement, moi, j'étais pour que on bloque les prix pour faire baisser les marges des pétroliers.
Mais c'est ce que fait Total.
Plusieurs mois.
Les prix sont bloqués depuis le début de la crise.
Ouais,
99
Total,
sur le
Total
super,
c'est auto-bloquer les prix.
Ah oui.
Moi, j'étais pour qu'on bloque l'ensemble des prix, parce que voilà, et même qu'on prenne sur les marges de Total et compagnie, parce que ces compagnies ont plusieurs mois de stock, et ça fait que chaque fois que ça s'emballe, bah ils font des marges monstrueuses, même en bloquant les prix à 2 euros. Donc il faut voir sur le long terme, mais à court terme, le blocage des prix de l'essence aurait été beaucoup plus intelligent que jeter encore 160 millions par mois par les fenêtres.
Un blocage des prix, en général, alors, ça amène vers...
Il y a une partie, je suis d'accord avec Dany, parce que franchement, les histoires de micro-mesures, micro-trucs, il y aura des gars qui vont échapper, pas échapper, on finira avec beaucoup de complexité administrative.
Il y a ceux en bas, pardon, je les ai oubliés, ceux-là, ceux en bas, qui le non-recours, c'est un phénomène documenté, massif, et on sait très bien que les deux premiers déciles, ils ne sauront pas comment s'y prendre, ils ne vont pas les attraper, c'est 50 balles. Okay.
Voilà. Heureusement qu'on a Total, les amis. Franchement, Total.
Mais j'ai pas dit le contraire.
Ouais, je veux dire, moi, la réaction à cette crise, c'est alléluia. Oui. On a Total. On a Total qui, en plus, accepte, sans être obligé, à limiter le prix du litre du carburant à 2 euros.
Ils font un super coup de com' en même temps. Ils limitent encore un peu plus. Si
ouais, d'accord. Moi, je suis content.
Avec les marges qu'ils font.
Je suis content. Je suis content que Total, dont 90% des actionnaires. 90% des actionnaires de Total ne sont pas français. Et cette boîte réalise. Je pense aussi 80% de ses profits à l'étranger. Donc on a un truc, moi je veux dire, je suis content qu'il soit à la défense, ton là. Voilà. Alors après, il faut prendre un peu de recul et il faut se dire quand même que ce qu'on voit là va nous amener vers l'électricité quand même. C'est, si on prend un peu de recul, j'oubliais les trucs. Ça. Ce qu'on voit là va nous amener vers l'électricité. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, les États-Unis, c'est une superpuissance oil and gas. Et elle restera. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là à faire la guerre, etc. C'est parce qu'ils sont une superpuissance oil and gas. Mmh. Et pourquoi est-ce que moi j'ai mon explication? Pourquoi est-ce que les Chinois sont finalement un tout petit peu en retrait de tout ça?
Parce que les Chinois sont en train de s'électrifier.
Et donc le prochain siècle, enfin le siècle qui commence à partir de maintenant, c'est un siège de ceux qui auront l'électricité par rapport à ceux qui vont aller se battre pour les derniers barils de pétrole, qui iront se battre très cher, etc. En plus en subissant des taxes anti-réchauffement climatique, etc. Donc l'histoire, c'est qu'il faut aider tous ces gens à s'électrifier le plus vite possible. Donc
plutôt des aides à l'électrification.
Il faut les amener à l'électrification. Moi, j'ai la chance de rouler en voiture électrique, full électrique. Je vais vous dire, voilà, je suis très heureux de. J'ai pas souffert du sujet, quoi. Et c'est ça que ça va amener. Moi, je suis content que Renault là déploie en ce moment. Il paraît qu'ils vendent énormément de voitures électriques. Renault, c'est formidable aussi, formidable pour l'industrie française. Donc, allons-y, passons à l'électrique.
Valentine Hennouz, un dernier mot. Le gouvernement gère plutôt bien les aides. Au compte-gouttes.
Il n'a pas le choix. Ouais. Bah, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, hein, qu'il gère avec plus de parcimonie le budget, mais ça met surtout...
Parce que lisez et le FMI et Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne, hein, il faut que les aides soient timely, targeted, temporary.
Juste pas le choix,
ciblées en temps et en heure et surtout temporaires.
Parce que la marge de manœuvre budgétaire aujourd'hui pour répondre à un choc exogène, elle est extrêmement faible. Hein. Si on regarde notre dette sur PIB, elle a énormément augmenté depuis le Covid, on est à 115%. Si on regarde notre niveau de dépenses publiques en France par rapport au reste de la zone euro, on est sur des niveaux les plus élevés, on est à 57%. Donc on a aujourd'hui un niveau de taxe qui est déjà aussi sur des niveaux élevés. Donc notre marge de manœuvre pour soutenir l'économie dans cette configuration, elle est très faible. Donc ils ont pas d'autre solution aujourd'hui que d'agir avec parcimonie. Surtout qu'on est comme je suis Madame Taux, hein. On est dans un environnement de taux qui a considérablement changé. Si on regarde entre 2008 et le Covid, on avait une dette publique qui a augmenté, mais en même temps, on avait les taux qui ont baissé.
Et qui coûtaient de moins en moins cher.
Et paradoxe. Plus on s'endettait, plus on avait notre coût de dette qui baissait. Hein. Faut quand même rappeler qu'en 2020, les taux, ils étaient à moins 0,15%. Aujourd'hui, on est à 3,7%. Donc, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'agir avec parcimonie sur la dépense budgétaire. On est dans un environnement de taux qui est totalement
surtout
différent.
Surtout avec le stock de dette qu'on a accumulé.
Merci les taux. Exactement. La rigueur forcée. Peut-être qu'on va aussi réduire notre déficit. Allez, on se retrouve tout de suite après une très courte pause publicitaire. On va parler du jour de libération des actifs. C'est passionnant, vous allez voir.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Souvenez-vous de ce nouvel horaire. À compter d'aujourd'hui, les experts, c'est en direct de 9h30 à 10h30. tous les jours en direct sur l'antenne de BFM Business. Je suis toujours avec Valentine Hennouz, responsable de la stratégie taux chez Amundi, Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord et membre des économistes atterrés, et Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. On va parler... J'allais dire d'une bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle finalement ou pas, mais aujourd'hui, lundi 4 mai, c'est le jour de libération des actifs. Ce sont deux économistes qu'on connaît bien sur l'antenne de BFM Business, Erwan Tison, directeur des études de l'Institut de l'entreprise, et Maxime Sbahi, auteur des Balançoires vides, un ouvrage que je vous recommande sur les conséquences du choc démographique que nous vivons entre baisse de la natalité et vieillissement démographique. C'est l'une des révolutions majeures qui va façonner notre pays dans les prochaines années. Ils commettent tous les deux un article aujourd'hui dans un média que je veux citer aussi, Les Électrons Libres, lel.media. Les Électrons Libres, allez consulter ce nouveau titre de la presse absolument passionnant. Ils ont calculé ensemble ce jour de libération des actifs. Ils ont pris le travailleur français moyen qui touche 2200 euros par mois et l'ensemble des cotisations et salariales et patronales, car elles pèsent sur le travail toutes les deux, que le salarié paye pour financer les retraites. Si on y ajoute les dépenses de santé des seniors, on arrive à 40%, 37% exactement, de prélèvements sur les fiches de paye pour la solidarité intergénérationnel, un montant qui a doublé depuis les années 70. Dans les années 70, on se libérait le 27 février. Aujourd'hui, c'est le 4 mai. Dany Lang.
Alors, je suis pas fan de cette manière de poser les choses. C'est une manière de poser les choses qui, à mon avis, est pas très honnête, parce que on fait comme si déjà tout ça c'était des prélèvements, que ça partait, que ça revenait pas dans l'économie. Il faut pas oublier qu'il y a un circuit économique, que nos retraités consomment, qui participent au fonctionnement du circuit. Il faut pas oublier non plus qu'il faut pas confondre cotisations et taxes, d'accord, même si les taxes elles aussi repartent dans le circuit économique.
Non, on parle bien uniquement des prélèvements dirigés vers le financement des pensions et des dépenses.
C'est des cotisations sociales, c'est du salaire différé, nous aussi on cotise pour plus tard bénéficier de la retraite. Cela dit, le vrai problème derrière tout ça, même si je suis pas du tout d'accord avec cette manière de poser les choses, le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'il y a plus assez d'actifs pour financer nos retraites. Alors, quelle est la solution? Certains disent les fonds de pension. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas opposé à une petite dose, genre pré-fonds pour tout le monde. Ceci étant dit, ça ne suffira pas. Et puis, par ailleurs...
Non, mais ça peut permettre d'alléger. Il n'est pas question, encore une fois, de supprimer le système de retraite par répartition, mais d'alléger le poids
d'alléger,
de plus en plus lourd.
Ça dépasse
une sorte de symbole qui permet de le montrer,
ça
déplace sur les actifs.
Ça déplace le poids ailleurs. Au lieu de payer des cotisations pour demain, je vais placer ça dans un fonds de pension... ce sera pas forcément très très lisible pour tout le monde, et les fonds de pension n'ont pas que des aspects vertueux. Tout l'argent qui est allé dans les fonds de pension aux États-Unis, ça a pu financer des choses, ça a pu en détruire aussi beaucoup, avec des exigences de rentabilité court terme qui sont des fois et souvent même délirantes. 15 à 25%, c'est pas raisonnable. Donc tout ça pour dire que cette manière de poser les choses me paraît extrêmement problématique, comme si c'était des prélèvements, comme si ça sortait de l'économie. C'est pas ça la question. La vraie question, c'est qu'il y a plus assez d'actifs.
Personne n'explique absolument pas que ça sort de l'économie. Hein. Ils expliquent simplement, ça nous donne une bonne idée du poids des pensions sur
On travaille 4
des
mois pour les autres, ça me paraît... quand on met dans la pension, on travaille aussi pour d'autres.
Dany, un peu quand même.
Ouais.
Bon. Guillaume Poitrinal.
Oui, c'est la solidarité, hein, je veux dire, ça marche quand même comme ça. Je dis pas qu'il y aura pas quelque part un espoir de toucher une petite retraite, mais enfin, nous, on sait très bien que notre retraite, de fait de la pyramide des âges, elle va avoir rien à voir avec ce qu'on aura cotisé. Enfin, c'est évident. Donc, moi, je pense que les fonds de pension, c'est probablement une des solutions. D'ailleurs, en fait, ils existent en France. Ça s'appelle l'assurance vie. En fait, les Français considèrent l'assurance vie. Ils accumulent l'assurance vie chez Amundi en se disant, bah, pour mes vieux jours, au moins, j'aurai un matelas. Et c'est ce qu'ils font. En fait, c'est un réflexe. Alors, c'est pas
organisé.
Tu vois, c'est mal fiscalisé, etc. Mais enfin, ça fait quand même à la fin des gros montants. Le problème, c'est que cette assurance vie, elle va financer le déficit public plutôt que de financer les entreprises. Et c'est probablement le sujet. À mon avis, c'est ça le sujet. Mais sur le fait, c'est évident que il va falloir à la fin quand même pour balancer tous ces régimes, ou accepter que les retraites baissent, ou alors allonger la durée du travail. Enfin, il y a assez peu d'autres solutions. Si, on est aujourd'hui super taxé.
Le niveau de cotisation, comme en Alsace, où on paye un peu plus.
Mais quand on voit, Dany Lang, qu'on est à près de 4 euros sur 10,
non, mais
vous ne trouvez pas qu'il y a une petite démotivation pour ceux qui veulent travailler choses, je comprends les jeunes, moi, qui n'ont plus envie de s'engager, si la moitié de ce que vous bossez doit partir ailleurs.
C'est une manière de voir.
Je dois donner quelques chiffres pour illustrer ce déséquilibre démographique, pour bien qu'on l'ait en tête. Dans les années 90, on avait 2,5 actifs par retraité. Aujourd'hui, on est à 1,77. Et en 2070, on sera à 1,2. Donc, la situation, et on voit qu'on est toujours surpris par le
déclin démographique qui s'accélère.
C'est une surprise, et ça s'accélère. Donc, enfin,
la natalité,
oui. Donc, c'est pour nous, je dirais, ça va être un sujet qui va être très, très présent les prochaines années et qui ne va pas se résoudre. Il n'y a pas une solution. Il y a peut-être allonger un peu l'âge de la retraite, augmenter le niveau des cotisations. Mais pour moi, évoluer, je ne dis pas changer le système, mais évoluer vers une retraite par capitalisation, c'est un point important. Et pour moi, qui permettrait de répondre à un double besoin de nos économies. On a un sujet aujourd'hui sur nos retraites, mais on a un sujet aussi sur le manque de financement de nos économies. Oui. On parle de l'électrification, on parle de la digitalisation, on parle d'augmenter nos besoins sur la défense, mais comment va-t-on financer tout ça? Et quand on regarde aujourd'hui la dette de l'État français, on peut se dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre budgétaire qui est réduite. Donc pour moi, cette retraite par répartition, c'est aussi une manière de répondre à ce problème où on manque de financement sur les économies. Si on regarde aujourd'hui les fonds de pension aux États-Unis, alors, je ne sais pas si les exigences de rendement sont aussi élevées que les chiffres que vous avez donnés.
Mais non, parce que c'est un blend. Tu vois, ils prennent du 1% comme ils prennent du 20% suivant les risques.
Mais on n'est pas forcément sur du 20-25. Je pense
c'est une moyenne pour les chiffres.
Mais
pour
si on regarde aujourd'hui, pour moi, le profil des actifs d'un Européen, globalement, à 70%, il est sur de l'immobilier et ses actifs financiers sont essentiellement sur du dépôt, des actifs peu risqués. Un ménage américain, il est, je caricature un peu, mais à 70% sur des actifs financiers et l'essentiel, plus de la moitié de ses actifs financiers sur des actions. Si. Donc, on est sur des économies où les montants qu'on investit à risque ne sont absolument pas les mêmes. Et résultat, on voit... Zone euro, on a des problèmes d'investissement, problèmes de gains de productivité. Et aux États-Unis, ils ont des gains de productivité. Donc pour moi, ce débat sur les retraites, il doit vraiment être pris de façon plus large. De toute façon, on est face à un vrai sujet. Donc on va pas pouvoir l'éviter. On va pouvoir le retarder. Mais plus on le retarde, plus on va se prendre un mur. Et aussi, ces besoins de financement dans l'économie. Donc pour moi, le sujet, il doit être abordé sur ces doubles aspects.
Et moi, j'ai jamais compris pourquoi les syndicats français... Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai dirigé une entreprise qui était franco-hollandaise. Et donc, j'avais, évidemment, dans le capital de cette entreprise, au CAC 40, j'avais des fonds de pension hollandais, importants, qui étaient mes premiers actionnaires, et qui se trouvent être dirigés par les syndicats. C'est quelque chose qui est totalement ahurissant pour les Français, parce qu'en fait, le conseil d'administration, ce sont essentiellement des syndicats et 2-3 personnalités qualifiées. Je les ai reçus, puisqu'ils voulaient voir à quoi ressemblait leur placement, donc on leur a fait faire le tour des immeubles des actifs d'une Unibail Rodamco. J'ai été étonné par la qualité des questions, qui étaient encore meilleures que celles que j'avais des analystes financiers qui suivaient le cours de bourse. Je peux vous dire que si on arrivait, ce miracle, à intéresser... la CFDT, la CGT, FO et les autres, à créer des fonds de pension pour pouvoir justement orienter. J'ai eu des très bonnes questions, j'ai eu des questions de gauche. Comment est-ce que vous traitez vos salariés? Dites-moi combien de jours de vacances vous avez? Qu'est-ce que vous offrez aux femmes qui sont enceintes, etc. J'ai eu des très bonnes questions sociales à cette occasion-là. J'ai eu des questions sur l'environnement à cette occasion-là. Mais la gouvernance de ces fonds de pension a été assurée par les syndicats. Et moi, je pense que c'est la grande révolution qu'il faudrait faire, que nos syndicats acceptent de créer des fonds de pension.
Les problèmes avec les fonds de pension, parce que les fonctionnaires sont les seuls à bénéficier de fonds de pension, d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
En France, au travers de l'ERAFP.
C'est pour ça que moi je dis, je suis pas opposé à l'extension.
C'est de la richesse collective,
non ? De
choses
comme préfonds, mais faut pas non plus. Préfonds, ça reste assez opaque, mine de rien. Quand vous essayez de creuser, même en économiste éclairé, c'est
pourquoi,
très compliqué. J'en sais rien, il faut leur poser la question à eux, c'est pas moi qui gère.
Mais qu'est-ce qui est opaque ?
Qu'est-ce qui est opaque ? Quels sont précisément les investissements auxquels ils procèdent ? Quels sont les niveaux de risque de ces différents investissements ? C'est très dur de creuser, j'ai essayé un peu, c'est quasiment impossible. Vous prenez un peu le contre-exemple parfait avec la Hollande. C'est vrai que quand vous discutez avec des gens qui sont fonctionnaires aux Pays-Bas, ils sont beaucoup moins inquiets de leur fonds de pension que les gens du secteur public américain. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de prendre la voie américaine. Cela dit, je ne pense pas que les fonds de pension soient la réponse à tout. La vraie question, c'est le nombre d'actifs. Quand on a 5,6 millions de personnes qui sont au chômage A plus B plus C,
oui,
à mon avis, la priorité, c'est celle-là.
Travailler davantage de monde,
vraiment,
c'est sûr.
C'est de réfléchir, non pas à travailler jusqu'à 80 ans, mais de réfléchir à toutes ces personnes, soit qui travaillent, mais qui ne travaillent pas à temps plein et qui souhaiteraient travailler à temps plein, soit à toutes ces personnes qui sont au chômage involontaire. Et on ne va pas me dire que 5,6 millions de personnes sont à la maison pour profiter de leur canapé. À mon avis, c'est la question clé. Ça ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir à la natalité.
On le répète à longueur de temps.
Réfléchir à la natalité, donner des perspectives. C'est plurifactoriel, comme vous disiez.
Oui.
Mais je ne pense pas que les fonds de pension soient le remède miracle. Et puis, un peu de fonds de pension, c'est bien. Trop de fonds de pension, ça pose le problème de l'instabilité financière.
Quand la bourse s'effondre,
il n'y a pas de retraite. Donc, il faut faire très attention où est-ce qu'on met son argent.
HK réagit à financier sur mon compte Twitter qui nous dit que l'objectif de rentabilité des fonds de pension américains publics, souvent comme CalPERS, hein,
on parlait de CalPERS,
fonctionnaires
on parle pas
américains, tournent autour de 6,8 à 7%.
C'est déjà beaucoup.
En moyenne, on n'est pas à
15%. Les fonds de pension hollandais visent 5-6% à peu près de rendement. Ce qu'ils arrivent à faire tranquillement sur très longue période.
C'est trop.
Et évidemment, ils font comme le font toutes les banques, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous avancez de l'âge de la retraite et la liquidation de vos droits, et moins vous êtes exposé au marché à risque, et plus vous êtes sur des marchés de taux.
Voilà.
Donc, il y a des techniques pour justement lisser. Alors ça, c'est leur grande hantise, fonds de pension, pour justement lisser les effets de volatilité des marchés. Ça,
aux Pays-Bas, ils y arrivent très bien. Aux États-Unis, j'en suis pas convaincu.
Mais regardons le modèle hollandais.
Choisissons le bon modèle. Alors, dans ces cas-là, vous parliez de travail, Danny Lang. Le travail des jeunes, notamment, on le sait, c'est à la fois les seniors,
c'est ça,
donc repousser l'âge de la retraite, et le travail des jeunes, effectivement, taux d'emploi de nos jeunes est inférieur par rapport à la moyenne européenne. C'est pour ça que je voulais qu'on parle de la politique qui a été menée depuis 2018 sur les apprentis. Une politique qui a été saluée comme une grande réussite d'Emmanuel Macron, puisque effectivement, on est passé de 300 000 à quasiment 1 million d'apprentis en 2024. Oui, mais à quel coût ?
C'est
la question que je voulais poser ce matin. Le coût de l'apprentissage qui est passé entre 2018 et 2024 de 6 à 16 milliards d'euros. Bruno Coquet de l'OFCE ajoute même, avec les allègements de charges,
24 milliards d'euros. C'est beaucoup
pour
trop.
Pour l'apprentissage.
C'est beaucoup trop.
Est-ce que c'est le bon chiffre ? Est-ce que c'est
Oui, à
c'est
mon
trop.
Avis,
vous dites
c'est
trop.
C'est le bon chiffre. Après, il faudrait aller creuser, etc. À mon avis, c'est le bon chiffre. Cette politique, je dirais pas ça de beaucoup de choses chez Macron, va dans le bon sens. Le problème de cette politique, c'est qu'on a permis au niveau bac plus 4, bac plus 5 de l'appliquer. Donc, on a eu un fort effet d'aubaine, c'est-à-dire des choses que les entreprises finançaient de toute manière sont maintenant financées par l'État. Et on a ce problème. Les universités ont un problème budgétaire parce qu'on les a mises à sec. Donc, elles essayent de compenser par l'apprentissage, etc. C'est l'argent de l'État. Moi, j'ai des apprentis en cours. C'est des gens qui sont chez la Société Générale, BNP Paribas. Pourquoi est-ce qu'on va financer ces apprentis-là ?
Désolé, question.
À mon avis, la vraie question, c'est pas l'apprentissage, c'est une tendance positive, vraiment. Mais premièrement, c'est le fait qu'on laisse plus les CFA décider si vraiment...
Les centres de formation des adultes.
Les centres de formation des apprentis décider s'il y a vraiment besoin que l'État finance. Et deuxièmement, qu'on finance massivement les Bac plus 3 à Bac plus 5. C'est ça qui coûte cher. Donc, il y a plein d'écoles de commerce... Il y a plein de centres de formation.
On finance ou on définance le bac plus 3 à bac plus 5? Parce que non, c'est un peu ça la question qui se pose.
Aujourd'hui, c'est
qu'on n'a pas financé
les
jeunes qui auraient
définancer.
Été... Voilà, les définancer.
Le coût est lié à ça. Les entreprises ont de toute façon besoin de ces gens. Elles vont de toute façon payer pour ces gens. Il n'y a pas de raison que l'État paye pour cela. Par contre, pour ceux qui sont en dessous, c'est tout à fait pertinent. Il faut continuer dans cette voie, d'après moi.
Et qui ont moins bénéficié, ouais. a priori, ouais. des aides, selon les études.
La France, c'est un pays formidable où on vous explique qu'un allègement de charges est un coût. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de dire, tiens, il y a trop d'impôts, je baisse les impôts, on vous dit, non, je baisse pas les impôts. J'allège l'impôt et je compense, et donc c'est un coût. Dans n'importe quel pays du monde, quand on baisse les impôts, on baisse les impôts. Si on dit sur les apprentis, j'ai décidé de prendre moins de charges sociales, on prend moins de charges sociales. Eh bien, nous, en France, on ne dit pas ça. Nous, en France, on dit, vous auriez dû payer tant, vous allez payer moins, et le moins, eh bien, en fait, c'est un coût.
Alors, c'est de la subvention hein, pour les apprentis. Attention, hein,
oui,
il y a
mais
des allègements de charges.
Quand est-ce qu'on va accepter de baisser les charges dans ce pays? Quand est-ce qu'on va accepter de baisser les impôts dans ce pays?
On parle de dépenses fiscales quand on allège l'impôt.
Plutôt que de dire, et de faire peser sur le budget de l'État in fine, en fait, des choses qui... C'est absolument ahurissant. Il faut éduquer les Français, à mon avis, sur, il y a un moment donné, un allègement de charges, ce n'est pas une dépense pour l'État, c'est peut-être de l'argent qu'il aurait peut-être... Mais la plupart du temps, il n'y aurait pas eu cet argent. C'est une perte de chance, mais il n'y aurait pas eu cet argent. Donc, dans la plupart du temps. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on
et
a
pourquoi
là
pourquoi on fonctionne comme ça? Alors, c'est quoi? C'est politique? C'est...
Mais parce qu'on a décidé que le régime social, il fallait surtout rien enlever aux régimes sociaux, et que donc, c'est l'État qui ferait la différence, et donc, c'est toujours le budget de l'État qui fait la différence, et les régimes sociaux, eux, ils continuent à empocher les sous. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu faire les réformes, probablement, quand même, malgré tout, sociales, qui devront un jour être effectué. Donc, il y a un jour, il faudra faire de la vraie baisse de charges et de la vraie baisse d'impôts et arrêter cette espèce de tartufferie là, qui consiste à dire que les allègements de charges sont de la dépense. C'est pas de la dépense. Moi, je suis désolé, c'est pas de la dépense. Dans ce truc-là, dans ces dépenses, il faut savoir qu'il y a aussi le coût des CFA. Il y a 4 à 5 milliards du coût des CFA. Alors, je vais vous dire, les gamins, s'ils n'étaient pas dans le CFA, ils seraient où? Ils seraient à l'université, on dirait c'est zéro. On dirait c'est zéro. Et là, on dit, ah, l'apprentissage, ça coûte cher parce que c'est le CFA. Non, mais voyez le côté, l'absurdie dans laquelle on vit dans ce pays. L'absurdie totale. Évidemment que les CFA, c'est de la formation. Évidemment que c'est pas un coût. Heureusement, l'éducation, elle est gratuite depuis Jules Ferry. Non, mais oh, dans quel pays on vit? Alors on dit en fait.
Non, mais le CFA, c'est 10 milliards de coûts supplémentaires. On ne parle pas du coût des CFA. Il y a des universités,
il y a des étudiants.
Il y a encore des milliards de CFA
qui
là-dedans.
Sont financés. Non, je suis. Attends, laissez-moi finir. Démontage de cet article à charge d'un journaliste qui a mal travaillé des Échos et qui essaye de faire de la presse à sensation sur le dos des entreprises. Donc, non, je suis désolé.
Alors moi, je l'ai lu et je le trouve absolument très bien.
Les allègements de charges, je les prends pas. Oui, c'est ça, c'est le corporatisme.
Les allègements de charges,
on les prend pas. Les CFA, on les prend pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste 6 000 euros à chaque fois que t'embauches, d'accord? Ok, dans le truc. Et puis ensuite, c'est les entreprises quand même qui payent le gamin, quoi. Tu vois, donc il y a quand même à un moment donné un peu de pouvoir d'achat qui arrive, etc. Et en plus, les entreprises, je rappelle qu'elles vont le former, elles vont l'encadrer, elles vont lui faire une formation pour être à échelle, etc. Le gamin, il va repartir avec des formations qui vont lui permettre de trouver un job. Et à la fin, ça marche. Alors là où Dany a raison, c'est qu'en effet, c'était pas fait à l'origine pour des diplômés de l'ESSEC ou de l'ESCP ou
c'est
de Dauphine ou de dans le truc.
C'est ça qui coûte cher et l'article est bien fait.
On est d'accord là-dessus. Mais ça, c'est juste à réexpliquer, à recaler la mesure. Mais la mesure, elle est excellente. Et ça fait pas. Attends, dans le million d'apprentis, je voudrais bien savoir combien il y en a, si tu veux, là-haut de surdiplômés.
Mais c'est ça qui coûte cher.
Mais c'est la majorité.
C'est la majorité.
Et c'est très bien expliqué dans le papier.
C'est très bien expliqué.
De ma consoeur,
oui.
Dans les Échos, justement, c'est que c'est les majoritairement les bac plus 3 à bac plus plus 5
qui coûtent cher,
alors que subsides, on ne parle pas du financement.
C'est un effet d'aubaine.
En tout cas, ramenons déjà à juste proportion ce que ça coûte réellement à la société.
C'est ce que propose Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail d'ailleurs, de faire 4 milliards d'économies sur ces 16 milliards aujourd'hui. Valentine Hénouze.
Après, je pense qu'il faudrait prendre un tout petit peu de recul. Hein, et pour moi, le financement de l'éducation de la jeunesse doit rester une des priorités. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les 4-5 prochaines années, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Et là, ça va être dévastateur. Je pense qu'on sous-estime vraiment l'impact sur l'emploi. Et notamment, là, on voit tout de suite et aujourd'hui l'impact sur les jeunes. Donc, même aux États-Unis, on voit que le taux de chômage des jeunes, il est en train de remonter. Les jeunes sont les premiers touchés par l'IA.
Donc moi, je recommande à tous les jeunes, allez vers le bâtiment. Ce sont des métiers bien payés. L'électricité, la maçonnerie, la charpente, évidemment, pour faire des immeubles en bois. Oui. Ce sont des métiers bien payés qui ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Elle va aider l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ce n'est pas là où il va y avoir des disparitions d'emplois. Donc moi, je pense, et très honnêtement, moi j'enrage sur mes chantiers de voir toute cette main-d'œuvre étrangère, si tu veux. Et je me dis,
mais vous trouvez des jeunes pour faire ces métiers difficiles?
Mais c'est pas un métier difficile. Faut arrêter de penser que le bâtiment c'est un métier difficile. C'est pas un métier difficile.
C'est un métier usant.
Honnêtement,
il y a des métiers dans le bâtiment.
Quand j'ai commencé, c'était difficile, je te jure. Mais maintenant,
non, il y a des métiers dans le bâtiment.
Ça a été pour le coup très régulé sur tout le confort sur le chantier. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est les champions nous d'Algeco, etc. Parce que on a des réglementations sociales et qui sont probablement très justifiées. Aujourd'hui, les ouvriers sont bien traités. Vous les avez vus d'ailleurs pour Notre-Dame. Ce sont des gens heureux parce que dans les monuments historiques, on a encore de la main-d'œuvre.
Et dans ces secteurs-là, l'alternance fait énormément de sens. Hein. Dans tous ces secteurs du bâtiment, l'alternance fait beaucoup de sens. Hein. Parce qu'il n'y a pas qu'une partie théorique, il y a aussi une partie pratique.
Et puis après, une fois que vous avez été électricien chez Bouygues pendant un certain temps ou maçon, vous créez votre
entreprise.
Et là, vous faites fortune, Dany. Voilà. Et après, vous payez l'IFI, et c'est formidable. Et vous êtes heureux.
Est-ce qu'on les prépare, nos étudiants, à l'utilisation de l'IA à l'université française?
Alors, c'est une problématique émergente, mais d'une autre manière, on a de plus en plus de problèmes à l'université, de gens qui utilisent l'IA, non seulement dans les devoirs à la maison, mais beaucoup de gens qui maintenant se font implanter des choses dans l'oreille pour tricher, transmettre le sujet. Là, on est confronté à quelque chose d'assez nouveau.
Et est-ce que vous avez des consignes, des guidelines pour gérer ces évolutions?
On essaie de faire face, mais ça n'a rien d'évident. Notamment, on essaie de mettre tous les téléphones de côté. Enfin, c'est pas évident. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à l'université, à l'impact sur l'emploi.
Ouais.
Si, on y réfléchit beaucoup. Hein. Moi, dans mes épreuves qui impliquent de la programmation informatique, je fais un oral maintenant. C'est la meilleure manière de vérifier que l'étudiant a appris des trucs. Alors qu'avant, je faisais pas ça.
Je suis pas tout à fait d'accord sur la massivité des baisses d'emploi. Il y a beaucoup de il y a certains secteurs. Voilà. Hein, tu vois,
les
fabricants de logiciels, les concepteurs de logiciels, etc. Mais moi, je vois aussi dans les entreprises maintenant un espèce de truc du style alors en fait, l'IA, il va falloir recruter des gens pour la rendre sécure, parce que c'est un énorme danger de fuite d'informations, de partage d'informations, etc. Donc, il y a tas de gens qui maintenant commencent à construire des murailles autour de l'IA pour la rendre sécure. Après, il y a toutes les formations pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on utilise l'IA et comment est-ce qu'on est plus rapide avec l'IA. Et après, il y a un niveau d'exigence. Là, je le vois maintenant sur les 3D, l'imagerie 3D. Il y a un niveau d'exigence qui est en train d'augmenter, mais considérablement. Et donc, on va en produire énormément. Et derrière chaque production, il y a quand même quelqu'un qui définit le cahier des charges, qui définit ce que veut, qui renvoie l'IA, qui parle à l'IA parce qu'il faut revenir vers l'IA. Donc, le niveau d'exigence. À la fin, je pense que ça ne fera pas un drame de chômage comme on est en train de le raconter.
C'est tout le débat du moment, Valentine News.
La clé, ça va être l'implémentation de l'IA dans l'économie. Ça veut dire qu'on va avoir besoin des investissements. Comment est-ce qu'on va diffuser cette IA dans l'ensemble de l'économie? C'est des besoins d'investissement à tous les niveaux et des besoins.
C'est ce qui a maintenu l'investissement du premier trimestre.
Et des besoins aux États-Unis, et des besoins de formation.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que la formation va être clé. On a une période charnière aujourd'hui où là, on doit vraiment mettre, pour moi, énormément viser sur la formation.
Ben oui. D'où l'université. 20 secondes pour terminer, Daniel.
20 secondes pour terminer. L'IA, j'en ai essayé pas mal pour l'instant. Moi, je peux vous dire, si vous demandez quelque chose à une IA et vous ne savez pas précisément où elle est, elle va vous sortir des bêtises et vous allez perdre plus de temps que vous allez gagner. Donc, très franchement, il y a beaucoup de travail à faire sur la formation des jeunes à l'utilisation et à la compréhension de l'IA. Parce que moi, quand j'utilise l'IA, je l'utilise pour du code. Elle me fait beaucoup de bêtises. Si vous n'avez pas l'œil, c'est mort.
Merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Valentine Hennouz, responsable de la stratégie TO chez Amundi. Dany Lang, enseignant-chercheur, membre des économistes atterrés. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2 pour cette émission passionnante. Il est 10h27. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Baptiste Huet. C'est R et Défense. Quant à nous, on se retrouve demain. Notez bien ce nouvel horaire, 9h30 tous les jours en direct. C'est toujours en direct sur BFM Business, bien sûr. Très bonne journée à tous. À demain.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.